Bonsoir à tous et je suis ravi d'être avec vous ce soir. On va faire un petit parcours avec ce peintre extraordinaire qui, à mes yeux et aux yeux de bien des artistes, reste le plus grand graveur qu'on ait encore jamais vu. Alors, certes, ces œuvres de Rembrandt ont fait l'objet, parce que je vais bien sûr évoquer les leçons d'anatomie, c'est-à-dire il y en a deux seulement. Donc ça, vous allez considérer que ça ne sera pas trop long, mais vous allez voir que ça pose quelques problèmes et je vous donnerai des nouveautés que j'ai trouvées par des recherches, car ça fait une vingtaine d'années que je réfléchis sur ce tableau qui, à mes yeux, posait des problèmes que je n'avais pas résolus à l'époque et que maintenant j'ai pu résoudre. Je me demande si c'est pas mieux si je parle sans le micro. Non, vous préférez le micro. Alors je prends, comme disait mon vieil ami, le microphone. Certes, ces œuvres de Rembrandt donc, ont fait l'objet d'études approfondies, voire même scientifiques, et nous songeons en particulier à celle du groupe de l'IJMA, comme celle d'ailleurs d'Alain Masquelet en 2011, ainsi que les pages de mon ami le professeur Alain Bouchet, qui consacre dans son remarquable ouvrage sur l'esprit des leçons d'anatomie. Quant aux propos délirants, et là je souligne le mot délirant, d'écrivain germanique Winfried Sebald dans Les Anneaux de Saturne, on ne se demande s'il s'est simplement renseigné sur le lieu de la dissection, sur le fait que ce n'est pas une classique dissection, sur le réalisme réel et surtout anatomiquement exact peint par Rembrandt. Au lieu d'affirmer comme une erreur le fait de la non-dissection de l'abdomen, au point d'en peindre une figure purement scolaire. Sebald n'apporte strictement rien dans les 6 pages consacrées à ce chef-d'œuvre. Cependant, reconnaissons que notre regard de médecin peut être troublé en particulier par ce qui est devenu l'un des plus célèbres tableaux de Rembrandt. Je dirait seulement le nom de Rembrandt, mais en fait, ce n'est pas son nom, c'est son prénom, qui est né à La Hède en 1606 et décédé à Amsterdam en 1669. Et on a donné comme titre à ce tableau la leçon d'anatomie du docteur Tulp. Il nous intrigue particulièrement car celui-ci n'est en rien une leçon d'anatomie, mais bien la représentation d'une leçon de physiologie fonctionnelle portant sur les fléchisseurs de l'avant-bras gauche. Leçon exposée par le célèbre médecin diplômé à La Hède, mais aussi chirurgien d'Amsterdam, qui s'appelait Claes Peters, qui est né en 1599, décédé en 1674. Effectivement plus connu sous le nom du docteur Tulp, ce briquet dont je vous expliquerai plus loin l'origine. Alors, je vous ai mis là la leçon sur laquelle vous allez méditer quelque temps. La volonté du maître néerlandais est toujours de capter le regard du spectateur et il réussit par le truchement du rouge des muscles et du blanc des tendons de l'avant-bras droit. Voilà. De gauche, pardon, excusez-moi. Que sait-on sur le docteur Tulp, Nicolaes Tulp? D'abord, c'est bien ce personnage, alors le chef de la guilde des chirurgiens, qui en fait la commande officielle au peintre. Cependant, c'est avec ce nom de Tulp qu'il fit publier dans sa ville par l'imprimeur renommé Daniel Elzevir ses observationes médicales. Je vous les voyais figurer là, en 1652, lesquels sont réédités et augmentés en 1672, avec une édition dont le frontispice rappelle quelques recherches qui ont fait la réputation de l'auteur. En effet, Tulp fut bien le premier à disséquer plutôt un chimpanzé qu'un orang-outan, et il décrivit bien avant l'Italien Gaspard Aselli des observations judicieuses sur les vaisseaux chylifères. Et surtout, il observa bien en premier la valvule iléo-sécale, dont l'attribution fut pourtant donnée au Suisse Gaspard Boin. On dit la valvule de Boin. Et en fait, on devrait dire la valvule de Tulp. Voilà. Notons aussi qu'Amsterdam est une ville importante dans cette période de la deuxième moitié du XVIIe siècle, avec environ 110 000 habitants. Voulant rivaliser avec Leyde et devenir le haut lieu de l'anatomie néerlandaise, elle fit construire un nouvel amphithéâtre pourvu de 8 cercles de gradins, situés près de la porte Saint-Antoine, près du célèbre Waag. Alors voilà le Waag que je vous montre sur cette reproduction que nous avons trouvée. Et d'ailleurs, vous verrez ici que, parce que les tableaux hollandais, il y a toujours une vie intense, vous voyez déjà que les peintures étaient susceptibles de se vendre comme ça. Et ce bâtiment est archi célèbre et est un des restants de l'Amsterdam ancienne. À côté, vous avez marqué, vous voyez, guilde. C'est la guilde des chirurgiens qui avait ici leur lieu de réunion, mais ça va être après la période du tableau que je suis en train de vous étudier. En effet, donc, Tulpe fut bien le premier à disséquer plutôt donc ce chimpanzé plutôt qu'un orang-outan. Mais retenez bien pour que c'est lui quand même qui décrit la valvule. Notons aussi qu'Amsterdam va à la volonté de se pourvoir d'un amphithéâtre d'anatomie. Mais surtout, elle doit sa richesse au commerce de la tulipe importée de Turquie depuis 1560. Et ce commerce était tellement florissant qu'il a engendré de nombreux profits, souvent spéculatifs, et c'est bien à ce commerce fructueux que la famille Peter, celle de Tulpe, doit sa fortune et son assise dans Amsterdam. C'est pourquoi on retrouve une stèle de pierre où figurait une tulipe apposée sur la demeure familiale de notre personnage. Claes Peters, dit autrement dit, qui portait le sobriquet de Tulpe. Alors là, je vais vous montrer une coupe du XVIIe siècle, inspirée de la tulipe, qui témoigne de cet engouement, et cette coupe provient de la famille Tulpe, donc la famille Peters. Un théâtre anatomique impose des dissections. Mais à l'époque de notre tableau, et ceci doit être retenu et même souligné, il n'y avait pas encore d'amphithéâtre anatomique qui fera la renommée par la suite de ce qu'on appelle l'Athénaeum illustre. C'est l'ancêtre de l'Université d'Amsterdam et cet amphithéâtre sera seulement érigé en 1690-91 pour rivaliser avec celui déjà fort réputé de Leyde. Alors, vous avez là le théâtre anatomique de Leyde. Mais c'est déjà le docteur Peters, alias Tulpe, qui était pour la guilde des chirurgiens d'Amsterdam ce qu'on appelait le prælector, c'est-à-dire le maître qui explique oralement. Il délaissa cette charge en 1654 pour se consacrer à la fonction d'être l'un des quatre bourgmestres d'Amsterdam. Et il le sera encore trois autres fois, ayant déjà été par 8 fois le trésorier de cette ville en pleine expansion. Donc il a eu aussi un rôle politique notoire. On sait aussi que la guilde des chirurgiens d'Amsterdam avait obtenu qu'une fois par an, elle soit autorisée à disséquer le corps d'un criminel exécuté dans l'hiver. Et c'est en l'occurrence le docteur Tulpe, comme prélector, qui fut chargé de cette démonstration. De plus, la tradition néerlandaise faisait que l'on demandait volontiers à un peintre l'équivalent de nos jours d'une photographie de groupe. Il en est ainsi pour des représentations, par exemple, de régents des hospices ou des maisons de redressement, de même pour les diverses et nombreuses compagnies, voire des ensembles de personnalités des guildes, etc. D'abord, voyons quelques exemples anciens sur notre sujet, comme la leçon d'anatomie, par exemple, du docteur Sébastien Egberts par Aetspertirs. Et il y a aussi celle du docteur Willem van der Meer par le peintre Mierveldt de 1617, ou même la leçon de 1625 du docteur Johan Fontaine, avec un N à la fin, par Nicolas Elias, surnommé Piquenois, qui est un peintre célèbre. Le chirurgien Fontaine est d'ailleurs le prédécesseur de Tulpe au niveau de la guilde. Alors, là, je vous montre celle de Van der Meer, où vous avez une leçon d'anatomie, la réelle, avec un ventre ouvert, et on voit le prélector qui tient d'ailleurs un scalpel. Et puis ensuite, vous allez avoir celle que je vous montre, du docteur Fontaine, qui est un document plus difficile à trouver, et que j'ai eu sur une thèse américaine qui était consacrée à la leçon d'anatomie du docteur Tulp, que j'ai dû faire venir de là-bas. Alors là, il montre une leçon d'anatomie, mais sur le crâne. Et alors, je vous montre également que le docteur Tulp a été peint aussi par Piquenois, qui est un excellent peintre, et on voit dans l'attitude assez classique de ses mains qu'ont les peintres, que les peintres hollandais ou autres même représentaient de ces personnages avec toujours cette main ouverte. Ainsi, dans notre cas, c'est soutenu, et ça c'est intéressant, par Constantin Huygens, 1596-1687, qui est le secrétaire du prince d'Orange, mais c'est aussi le père du savant, c'est-à-dire de Christian Huygens. Donc on a affaire là à un personnage qui est une clé dans l'histoire de la Hollande. Et finalement, c'est grâce à cette aide que le marchand d'art et peintre Hendrik van Willenburg, 1587-1661, propose la commande du docteur Tulp au jeune Rembrandt. Il a 26 ans. Mais il est déjà reconnu comme un excellent portraitiste, ce que prouve cet autoportrait que je vous montre là. Et il a 22 ans quand il a fait ce portrait absolument magnifique. Là, c'est une huile. Un petit mot sur Constantin Huygens, qui, comme homme d'État, est le conseiller de Maurice de Nassau, prince d'Orange. C'est un proche de Descartes depuis 1635. C'est aussi un poète et musicien, ami de la poétesse et musicienne Ninon de l'Enclos et de Luigi Rossi. Je donne les dates de Rossi, 1597-1655, à qui Mazarin donna son soutien, et c'est lui qui nous apporta d'ailleurs l'opéra italien, ayant œuvré pour les Médicis et le cardinal Barberini. C'est pas sans importance, parce que l'opéra, à cette époque-là, a pris un essor important. Étant invité ce jour par une association dont les pôles d'intérêt se portent par définition sur l'Italie, au sens le plus large, donc aussi sur ses diverses influences, en particulier dans tous les arts, les sciences, dont la médecine, l'économie, la sociologie et la politique, il me faut, avec mon sujet de ce jour, vous exprimer pourquoi l'éminent peintre et l'inouï et exceptionnel graveur Rembrandt n'a jamais effectué le moindre séjour éducatif en Italie. Alors qu'auparavant, la plupart des maîtres des provinces unies se sont rendus en Italie, tout comme le réalisaient bien d'autres artistes européens, car l'Italie est un phare précieux recherché par beaucoup. Mais ce fait ne veut pas dire que le jeune maître néerlandais n'y entendait rien, ou même aurait pu déconsidérer l'apport de l'art italien en matière de peinture, gravure et même de sculpture. Vous allez découvrir que cet art italien lui a été plutôt transmis, voire apporté sous ses yeux, et qu'il n'a pas jugé bon, dans son apprentissage, fort précoce, de réaliser ce voyage initiatique. C'est d'abord à la aide qu'il s'instruit chez les Van Swanenburg, d'abord auprès du père, puis du fils, entre 1621 et 1623. Ils sont tous deux peintres, mais aussi marchands d'art. Et le fils Jacob s'est rendu à Venise plus jeune, en 1591. Il est même resté une année complète s'imprégnant des maîtres vénitiens, comme Tiziano Vecellio, dit le Titien, de Paolo Cagliari, donc je vous donne les dates, 1528-1588, dit le Véronèse, et de Jacopo Robusti, 1518-1594, dit le Tintoret, n'est-ce pas? Une empreinte de leur influence se sent dans ses œuvres, et le siège de Bétulia que vous avez sous vos yeux en est un bon exemple. Puis en 1623, Notre jeune Rembrandt se rend à Amsterdam chez Peter Lastam, dont on sait en revanche que ce dernier a fait un voyage initiatique en Italie entre 1604 et 1607, et qu'il appréciait la peinture italienne et particulièrement le Caravage, dont on connaît le réalisme lié à l'utilisation de la couleur et de la lumière, mais aussi l'influence des peintres vénitiens cités ci-dessus. Voici comme exemple donc cette Suzanne au bain de ce maître néerlandais. D'autre part, Rembrandt avait l'esprit et même la manie collectionneur, au sens psychiatrique. Et c'est surtout en créant cette collection d'œuvres d'art qu'il appréhendra une vision assez complète de l'art européen et plus particulièrement l'art italien. Et cela ouvrira d'autres portes à son imagination, comme celle des civilisations orientales, domaine assez fermé pour bien de ses autres collègues hollandais, alors que leur marine parcourt le monde en sachant que derrière le navire marchand se trouvent aussi de redoutables canons. Ainsi, la gravure du Petit Palais, l'autoportrait dit au chien de la collection Dutuy, qui a pu poser des problèmes d'attribution, et ce n'est plus le cas maintenant, nous le dévoile dans un éclairage typique de son génie, mais affublé d'une telle tenue, et c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre, en rapport avec son goût pour l'exotisme, et tous ses déguisements sont le fruit de ses achats pour ses peintures et ou ses collections. Alors il s'affublait, il se peignait ou il affublait certains personnages qu'il aimait bien et il les peignait avec des tenues des fois assez invraisemblables. Alors on a comme ça des visions d'arabes, etc. Sachez pourtant que dans l'art graphique, il arrive rarement qu'on puisse identifier complètement une technique au génie d'un seul artiste. Cependant, on peut vraiment affirmer que la gravure à l'eau forte au XVIIe siècle, c'est Rembrandt. En effet, même si le scrupuleux Hercule Segers orienta les débuts de Rembrandt, ce dernier a fini par tenir à son époque une place particulière, encore plus estimée chez les professionnels que sa peinture, car il inventa une manière bien personnelle de graver, qui consistait en des traits de pointe de différentes forces d'application avec des coups irréguliers et isolés, qui engendraient un profond clair-obscur d'une surprenante intensité. Et on peut souligner combien tous ces autoportraits ont une place unique dans le XVIIe siècle et même finalement sans équivalent dans l'histoire de l'art. Si Rembrandt ne fut jamais un isolé, ni au sens artistique, ni au sens social, en revanche, pendant toute sa carrière, son art fut autre que celui qui se faisait autour de lui, particulièrement par son utilisation de la lumière, un des éléments les plus intangibles du monde physique. C'est la seule chose qui peut suggérer ce qui échappe à toute description purement plastique. La vie intérieure de l'être humain et où le contenu spirituel d'une scène. La lumière à la merveilleuse diversité est une véritable langue pour Rembrandt. Ce grand travailleur fit une réelle fortune, noyé par les commandes. Pourtant, malgré cela, il n'a pas pu échapper, vers la fin de son existence, à la vente de ses biens en 1656. Car c'était un personnage dépensier et sans retenue par sa manie sans limite pour ses collections si nombreuses. Et ce qui devait arriver survient. C'est la faillite. Celle-ci nous a fourni indirectement un inventaire que vous avez sous les yeux, assez précis, du contenu de sa maison et de son cabinet de curiosité. Sa demeure est située dans le quartier juif d'Amsterdam, près de la Sint-Antonies-Straat, dans la Jodenbrietstraat. Et le peintre s'y complaît. Alors, je vais vous montrer la maison de Rembrandt avec une gravure qui est un petit peu ultérieure. Mais on voit d'ailleurs le peintre qui a été figuré par l'artiste qui est là. Voilà, avec son grand chapeau et la maison de Rembrandt qui est là. Dans l'Amsterdam, disons, début 18e qui n'avait pas changé par rapport au 17e. Il y aurait d'ailleurs de quoi faire une conférence sur le monde juif dans la vie et l'œuvre de Rembrandt. C'est pour cela que nous avons des portraits de personnalités juives comme le fameux docteur Ephraim Buénot, qui fut l'un des fondateurs de la faculté de médecine de Bordeaux lors de son passage dans cette ville portuaire comme marane, c'est-à-dire juif converti de force, ce qui était le résultat des Aragons et tout ça, et même de même au Portugal. Donc ces maranes sont repartis et passés par notre pays. Au passage, dans le cas de Buénot, il a fondé quand même, avec d'autres, la faculté de médecine de Bordeaux, puis ensuite ils sont arrivés sur Amsterdam. Et vous rappelez qu'il y a deux synagogues. Il y en a une pour les juifs, j'allais dire, plutôt séfarades, et l'autre synagogue pour le type Ashkénaze. Voilà. Et cela nous vaut bien des gravures et peintures célèbres dont je vous ai choisi finalement trois exemples que je vais vous montrer doucement. Alors là, vous avez d'une part un portrait gravé du docteur Ephraim Buénot et du fameux Ben Israël, qui est un rabbin qui était connu dans toute l'Europe. Donc Buénot est une gravure magnifique au bas de son escalier, et Manassé Ben Israël, une très superbe gravure aussi, avec, vous voyez les traits, par exemple, on voit très bien sur la partie inférieure la façon dont il avait de faire les ombrés. Mais je vous montrerai ça encore mieux dans une gravure d'après. Ensuite, vous avez cette gravure qui montre des juifs à la synagogue, qui est très belle, avec discussion. C'est que la synagogue n'est pas un lieu uniquement de prière, mais de réunion, et des tas de choses de la vie communautaire se passent dans une synagogue. Ensuite, je vous ai mis deux épreuves sur un état premier et un état second, pour vous montrer le travail qu'a pu faire ce grand artiste dans sa gravure de la mariée juive, qui en fait est peut-être son épouse, qu'il a représentée. Alors ici, il y a un premier travail qui est déjà très achevé, mais vous voyez par exemple ici la finition avec les cheveux et ici avec le fond, qui est complètement transformé par rapport à ce que c'était ici. Moi personnellement, j'aime assez bien l'état premier par rapport à l'état second. Bon, c'est tout, c'est. Dans le problème de la gravure, c'est qu'on peut avoir des états différents. En général, c'est trois états, mais il n'est pas inintéressant de les connaître et de les examiner tous. Voilà. Alors, maintenant, qu'arrive-t-il à ce travailleur acharné qu'est Rembrandt? Il finit par être submergé et de plus en plus soucieux, ce qui explique que Rembrandt s'est tourné vers le dopant le plus facile et accessible. Les boissons alcoolisées. Et cela en a fait un malade alcoolique notoire, qui fréquentait volontiers les bas quartiers, où il trouvait des compagnons pour l'accompagner dans son assuétude. L'homme alcoolique n'aime pas boire seul, si ce n'est parfois pour y trouver, voire choisir, dans le cas de Rembrandt, des modèles dans ce petit peuple qu'il aimait, comme ce gueux que je vous montre là. Que je vais vous montrer. Alors là, c'est la fiancée juive que vous avez de une peinture de 1665, un peu inspirée de la première, qui est une magnifique peinture de Rembrandt. Et là, je vous montre donc le fameux gueux qui était nommé Captain Hébine. Et là, vous pouvez vous poser des questions. C'est un sujet que je connais assez bien, car il est atteint de ce qu'on appelle les feux de Saint-Antoine, le mal des ardents. C'est-à-dire les gens perdait à cause d'avoir mangé des pains avec de l'ergot de seigle, attrapait l'ergotisme qui leur donnait bien sûr les sévices de cette maladie, c'est-à-dire que certains membres tombaient tout seuls. Nous avons par exemple à Reims, un jour, mais malheureusement on ne la montre presque plus, une extraordinaire tenture qui appartenait autrefois à l'hôpital, et qui représente ce qu'on appelle la piscine probatique, et c'est tous les aspects cliniques du mal des ardents qui est figuré dans cette magnifique tenture. Alors là, on voit bien ce gueux, mais on en retrouve aussi dans d'autres peintures hollandaises, aussi dans des graveurs allemands, etc., parce que ça a sévi bien sûr dans toute l'Europe. C'était quand même une maladie épouvantable. Alors, vous voyez également, je retrouve ma page, voilà. Alors, ce qui est important par rapport au papier que je vous ai montré tout à l'heure de cette fameuse vente, elle dévoile un amateur quand même éclairé avec des œuvres d'art antiques et asiatiques. Elle avait beaucoup de choses dans sa collection, parce que bien sûr, les Hollandais parcouraient avec leurs navires marchands le monde entier. Mais il existe aussi chez lui un bric-à-brac d'objets de sciences naturelles, des armes, des instruments de musique, des costumes dont il aimait bien sûr s'affubler, voire s'en servir comme modèle. Et bien entendu, il possède des tableaux, des dessins et des estampes de maîtres flamands comme Hercule Segers, Jean Liévins, Adrien Rouheur, Peter Lassmann, qui a été un de ses maîtres, et autres Jean Pinas, mais aussi des œuvres italiennes attribuées à Giorgione, César Vecellio, Palma le Vieux, Lelio Orsi, ou encore des œuvres de Carrache et encore bien d'autres. Donc, si vous voulez, l'Italie, ben, il se l'est offert carrément. J'ai maintenant plaisir à vous entretenir aussi d'une vente aux enchères d'œuvres italiennes, qui a eu lieu le 9 avril 1639 chez le marchand d'art Luca van Uffelen, à laquelle Rembrandt assista. Mais déjà, malgré sa précoce réussite professionnelle, il n'a rien pu acquérir. Cela nous donne d'ailleurs une bonne indication du prix atteint à l'époque par certaines œuvres d'art. Sachez qu'il fut à cette vente attiré par l'équilibre d'un tableau de Raphaël, qui est celui-ci, représentant Balthazar Castiglione, œuvre datée des années 1514. 1515. Ce tableau est désormais au musée du Louvre. Néanmoins, ce Raphaël l'attire au point de réaliser sur place une belle esquisse où est noté en haut à droite, hein, vous voyez bien en haut à droite, n'est-ce pas, le prix d'acquisition, soit 3 500 florins. Une somme importante. Et j'allais dire très importante pour l'époque. Et ce beau croquis appartient désormais à l'Albertina de Vienne. Et dans cette esquisse, on ressent combien Rembrandt attache aussi de l'importance à autre chose que le seul sujet, en ombrant aussitôt la projection du dos du sujet, comme Raphaël le fit. En effet, parce que dans le Raphaël, on s'aperçoit. Bon, il faut bien sûr, les reproductions de tableaux sont difficiles, on en parlait tout à l'heure avec Claude. On a des tableaux où on voit plus le fond, etc. Et là, le contraste, on voit bien que c'est ombré par Raphaël et il en a tenu compte. Cela l'inspira car dans cette période, il a entrepris un autoportrait en eau-forte, dont d'ailleurs on connaît les filigrammes du papier. Tout cela inspiré par le Castiglione de Raphaël, mais dans son croquis, il s'éloigne de l'esprit Renaissance par la vivacité du regard tourné vers le spectateur, ainsi qu'un port plus altier et incliné de la coiffe. Et surtout, le bras entier est indiqué, ce qu'on retrouve nettement dans son autoportrait. Alors là, c'est une splendeur de gravure. Remarquez, dans son eau-forte, l'ombré, alors là sur la droite, qui fournit une profondeur, et là on le devine un peu, mais j'avoue que c'est très difficile à reproduire. Celui qui acheta le fameux Raphaël nous est connu. C'est Alfonso Lopez, riche marchand d'art juif espagnol et courtier en œuvres d'art pour le cardinal de Richelieu, mais aussi un proche ami de Rembrandt, avec qui il faisait des affaires. Donc, vous voyez, non seulement il achetait des tableaux à ses marchands, mais ce marchand vendait de ses œuvres. Ce qui explique que certains Rembrandt ont été, dès son époque, dans des endroits comme l'Espagne ou même dans la région viennoise, etc. Ça, c'est aussi intéressant dans le parcours à retenir. Rembrandt a pu encore là visionner à sa guise l'art italien, comme l'Arioste, par exemple, hein, c'est un exemple, du Titien, daté des années 1508-1511, actuellement à la National Gallery de Londres. Alors là, vous avez Rembrandt qui s'inspire de l'Arios. Vous voyez la même pose, la façon de s'accouder, un endroit pour s'accouder, etc. C'est quand même, à mon avis, fort, fort intéressant de faire ces comparatifs. La manière d'utiliser le parapet servant de support au bras richement couvert d'une manche volumineuse par la volonté du Titien a marqué Rembrandt. Mais celui-ci, en faisant pendre beaucoup plus vers l'extérieur sa manche, s'accapare vraiment de cet extérieur et il récidivera avec son autoportrait peint en 1640, qui est une toile aussi à la National Gallery. Donc je vous ai mis cette toile qui est à la National Gallery, qui est très belle. Cela lui donne l'allure distinguée d'un noble italien. Ainsi, l'empreinte de l'art italien sur Rembrandt existait malgré qu'on osait dire qu'il n'entendait point se soumettre à de quelconques règles dictées par d'autres. Il possédait néanmoins le traité des proportions de Dürer. Et je vous démontrerai, à partir de la leçon d'anatomie du docteur Tulpe, œuvre déterminante, d'où vient cette légende que Rembrandt n'entend rien aux proportions, légende dont j'ai la fierté d'en être le découvreur. Eh oui, tout comme Michel-Ange et le Caravage, il se plaisait à affirmer que toute peinture, quelque représentation que ce soit, et de qui ce soit, se réduit à rien lorsqu'elle n'est pas exécutée d'après nature. On sait combien le maître néerlandais recherchait toujours des modèles vivants et volontiers dans le petit peuple, et il n'hésitait pas du tout à peindre ou à graver ce qu'il voyait, comme peu ou ont pu oser le réaliser. Et je vais vous faire une petite démonstration en vous donnant quelques exemples où sa crudité réaliste est de mise, avec le fameux Joseph et la femme de Putiphar, comparé à la gravure de Lucas de Lade, ou même son Adam et Ève, ou des nus féminins hyper réalistes, voire même la fameuse remarquable pisseuse. Alors, je vais vous montrer ces différentes choses. Alors là, vous avez le Lucas de Lade, qui était un très très grand graveur. Alors, vous voyez, ça reste quand même à la fois un beau travail de gravure, mais on a la chance d'avoir le cuivre de Joseph et la femme de Putiphar. Là, c'est le cuivre. Donc, on est à l'envers. Alors, on a de la chance parce que des cuivres, il n'y en a pas tellement. Il y en a certains qu'on a gardés, mais ils avaient été retravaillés pour faire d'autres presses. Donc là, c'était un cuivre de l'époque. Et voilà la gravure de Joseph et la femme de Putiphar par Rembrandt. Alors, c'est absolument extraordinaire. Cette femme qui meurt d'envie d'avoir le Joseph dans son lit et qui l'attrape. Et vous voyez que Rembrandt, ben, il n'hésite pas de mettre ses organes génitaux presque en première ligne. Et ça, à l'époque, c'est assez innovant. Bon, ensuite, on va passer à Adam et Ève. Alors, Adam et Ève, ben, il les montre comme on doit les montrer, c'est-à-dire que après, il y a eu tout un art qui n'était pas, et il prend une femme telle qu'elle est à son âge, là, et Adam, ben, il a les muscles d'un homme de son âge aussi, et c'est quand même intéressant. Mais alors ensuite, il est capable d'aller chercher dans le petit peuple, même des Hollandaises d'un âge beaucoup plus mûr, comme celle-ci, où vous voyez même l'empreinte des bas de cette Hollandaise qui est venue poser dans son atelier. Vous remarquerez aussi le ventre de cette femme qui n'est pas si âgée que ça par le visage, mais qui a eu d'avoir un certain nombre de grossesses. Et puis alors, celui qui est assez extraordinaire, qui vient de la Bibliothèque royale, donc c'est quelque chose que nous avions chez nous. La. Ben tiens, ah oui, non, il ne veut pas passer. Alors je vais revenir en arrière. La pisseuse. Voilà. Alors, et alors la gravure est d'une extraordinaire beauté parce que, bon, mais attendez, il faut pas. On est au XVIIe siècle, donc c'est l'époque de Louis XIV. J'ai été très marqué par mon professeur d'histoire et géographie. Je donne son nom, Monsieur Larguin, qui était un protestant. Mais quand il nous racontait Versailles, on était plié en deux parce qu'il me dit, les gens le long de Versailles circulaient avec des parapluies car ils prenaient de l'urine, des matières fécales, tout ça, c'était ou vidé par les fenêtres ou les gens se mettaient sur les rebords. C'était une puanteur dans Versailles, avec certains coins qui étaient nettoyés. Il faut toujours se poser des questions. Comment à l'époque les gens, vous savez, les toilettes, c'est pas si vieux que ça. Hein. Voilà, alors j'espère déjà pour cette première partie vous avoir déjà montré un certain nombre de choses intéressantes qui distinguent Rembrandt du reste. Par contre, je vais vous montrer maintenant comme quoi il continue de s'inspirer de l'Italie. Il y a une gravure de Vierge à l'enfant de Mantegna qui a fortement inspiré Rembrandt. Donc vous connaissez cette œuvre qui est au Met et qui est une magnifique gravure. Et Rembrandt s'en est sûrement inspiré dans l'œuvre suivante, gravée par lui. Voilà. Donc vous voyez que l'influence de l'Italie est notoire. Alors maintenant, on va passer à l'objet de mon propos. Plus médical, mais rassurez-vous, ça ne sera pas trop, ça va vous étonner même. Ainsi, c'est bien à une date hivernale, en janvier 1632, que le tableau du groupe des chirurgiens dénommé La leçon d'anatomie du docteur Tulpe sera entrepris car un condamné à mort est exécuté à cette période et proposé pour une dissection, d'autant que l'hiver reste la période idéale pour la démonstration. Nous devons observer attentivement ce chef-d'œuvre du maître hollandais qui est signé en haut sur un placard situé entre les deux plus hauts visages centraux. Alors on va faire attention, ben, je vais vous le montrer de plus près. Les deux visages sont là, et là il y a un placard, et vous allez trouver la signature que vous pouvez sûrement observer là. Voilà. Notons que le docteur Tulpe, alors âgé de 39 ans, n'est en rien situé au centre de la toile. Mais sur l'œuvre définitive, il est bien le seul à porter un chapeau à large bord, et il paraît surtout concentré sur ses dires, comme le révèle son regard, alors que les autres personnages regardent soit bien l'avant-bras gauche disséqué, soit un personnage supposé devant qui aurait peut-être posé une question intéressante au démonstrateur. Les teintes rouges et blanches du bras disséqué focalisent bien sûr notre regard. Ah oui. Ah, c'est celle d'après. Oui, alors attendez. Si, si, on l'a. Je vais revenir sur le. Je ressauterai, voilà. Je vais vous remettre celui-là. Vous avez raison. Je remets celui-là. Alors, les teintes rouges et blanches du bras disséqué focalisent notre regard dans l'ambiance clair-obscur, si spécifique et si remarquable du maître hollandais. On remarque à droite également, c'est très important, un gros volume. Vous voyez le volume, hein, dont on devine des caractères plutôt gothiques. Et celui-ci n'est en rien relié, comme le démontre une certaine incurvation du dos malgré un reposoir. Ce volume est un ouvrage d'anatomie qui fait plutôt penser, par son importance, à l'une des fabricas d'André Vézal, dont je vous ai parlé, ou bien une de ses copies révisées, comme celle prisée en Flandre d'Adrien van Spiegel de 1627. Donc, bien une date assez proche du tableau, mais qui était important. Pourvu d'ailleurs en plus des planches, des tabulae anatomicae de Giulio Caserio. On sait que Rembrandt s'attacha particulièrement à l'étude de l'avant-bras gauche, qui est installé ici en pronosupination, donc pour bien exhiber le rôle des fléchisseurs desséqués par le docteur Tulpe. Sur ce point, certains commentateurs pensaient y voir des erreurs, mais il n'en est rien. Et anatomiquement, cela est juste, sinon à la rigueur, l'absence de ce qu'on appelle les poulies des muscles réfléchisseurs. Du fait que l'abdomen n'est en rien ouvert, on ne peut parler d'une leçon d'anatomie, car celle-ci commençait toujours par l'abdomen pour éviter le rôle néfaste des fermentations et de la putréfaction. Certains, en fonction de l'imposant volume ouvert, ont pensé que celui-ci pouvait être vraiment l'ouvrage de Vésale, car cela est une bonne observation. On peut observer dans l'original de la Fabrica un portrait d'André Vésale expliquant la même zone anatomique, mais sur le bras droit. Et ce n'est pas le seul tableau représentant une telle scène, car on connaît aussi une représentation de l'anatomiste Léon Bonzio, dont certains soutiennent d'ailleurs que ce serait plutôt un portrait de Vésale, ultérieur, un portrait ultérieur. Alors, voilà, attendez, là, j'ai la liste, comment ça se fait que ça saute? Là, c'est pas normal. Voilà. Je vais revenir. Donc là, voilà, vous avez ici ce que je viens de vous évoquer, tiré de la Fabrica de Vésal, donc pour vous, du côté ici gauche, la fameuse portrait de Vésal ayant disséqué la même zone, mais à droite. Tandis que de l'autre côté, vous avez un anatomiste qui a existé à Padoue, qui est Bondio, qui se fait représenter sur une peinture, qui est en Suède d'ailleurs, qui représente exactement la dissection comme Vésal. Imiter Vésal, c'était un petit peu le but de ces gens-là. Tout est fait dans cette peinture pour attirer l'œil du spectateur par le jeu de la lumière sur cet avant-bras disséqué du cadavre, ainsi que les mains de l'opérateur, d'autant que le regard des autres personnages... Alors, je vais mettre la photo suivante... nous incite à cela. Nous devons aussi, partie intégrante de cette leçon de physiologie fonctionnelle, nous devenons nous-mêmes, nous rentrons dans la leçon de physiologie fonctionnelle. Tous les personnages sont connus, d'autant que celui qui nous fixe et que vous voyez là particulièrement, celui qui nous fixe particulièrement, tient à la main gauche une liste numérotée. Et je vous ai montré en prenant ici la liste, et vous avez, je vais vous donner le nom de cette guilde de chirurgiens. Voici l'identité de ces chirurgiens. Jacob Bloch, Hartmann Zuhn, Adraens Labran, Jacob De Witt, Mathis Kalkoen, Jacob Coulvet et Franz van Lonen, qui est le plus haut personnage. Alors, ce plus haut personnage, je vais vous montrer après une chose rare. Il a été figuré avec un chapeau. Il y avait une raison à cela. C'est qu'autrefois, il avait été un peu le prélector de la guilde. Il était plus âgé que Tulp, mais il avait commandé cette guilde. Alors, il a cru bon de mettre. Mais finalement, sûrement à la demande de Rembrandt et à celle de Tulp, il faut le reconnaître, il dit « Seul moi qui est le prélector, je porterai le chapeau ». Voilà, un peu c'est tout. Celui qui tient la liste est Hartmann Zuhn. Et entre ces deux personnages est peint Jacob Bloch. Et depuis la gauche, sur la même ligne, à la hauteur des mains de Tulp, on observe Jacob Coulvet. Puis, alors, pour peut-être farfaire les choses, je vais revenir en arrière et vous remettre, voilà, pour que vous puissiez mieux juger. Voilà. Donc, je reprends. Celui qui tient la liste, vous voyez, il est derrière Tulp. Vous l'avez là derrière Tulp, hein ? Et Jacob Bloch, et depuis la gauche, sur la même ligne, à la hauteur des mains de Tulp, on observe donc Jacob Coulvet, Adrien Slaberein, puis Jacob De Witt, plus penché. Et enfin, Mathis Kalkoen, on sait que certains des chirurgiens de cette guilde ont été ajoutés à leur demande par la suite. Ce qui explique, ah ben oui, parce que ça avait de l'importance, ce qui explique que le détenteur de cette liste n'a pas été peint dans la première ébauche. Et on a découvert par l'analyse en infrarouge et autres ultraviolets, que le personnel de Franz von Lönen était pourvu d'un chapeau à large bord. Alors vous me dites, mais comment vous faites pour trouver ça? Mais je vais vous le montrer. Alors, je ravance, parce qu'au moins je me rappelle de mon... Voilà. Vous avez là une radiographie un peu spéciale en mou. Et vous voyez le von Lönen qui est en haut avec un chapeau, qui a disparu. Cette radiographie, c'est la seule qu'on ait de cette peinture, parce qu'ils n'en ont jamais plus fait après, qui avait d'ailleurs souffert. Hein. Elle a eu des sévices, je ne sais plus combien, de restauration. Bon, mais on va rester sur celle-ci, vous allez voir, ça va être assez intéressant et passionnant. On sait que l'assistant officiel du prélecteur est Mathis Kalkoen, mais Franz Follen est l'assistant réel, mais non officiel, alors que Johann Fontaine, comme je vous l'ai montré au début, non figuré ici, était le prédécesseur de Tulp. Alors maintenant, que sait-on? Parce que c'est ça surtout qui m'a beaucoup, posé des questions pendant des années. Que sait-on de précis sur le condamné à mort qu'est Aris Kint, alias Arend Kinje, alias T. Kint, avec une petite virgule, ou de son vrai nom, Adrien Zuhn? Grâce à mon ami néerlandais Tennis van Inningen, nous avons pu obtenir les procédures de ce criminel dans les archives municipales de la ville d'Amsterdam, dont le verdict définitif. Alors, je vais revenir exprès sur la. Attendez, la radio. Oui, alors attendez, ça doit être celui-là. Voilà, on va revenir ici. Et s'il faut, on reviendra au tableau qui est juste après. Hein, je peux le faire. C'est-à-dire, il a subi comme verdict la potence. Et ça a été prononcé exactement le 30 janvier 1632, en sachant que les interrogatoires du criminel ont commencé bien avant le 20 janvier et se sont terminés le 24 janvier 1632. Donc, selon les archives de la ville d'Amsterdam, il n'est pas possible que le criminel Harry Skint ait été pendu à la date du 16 janvier 1632, comme vous trouverez dans bien des gens qui veulent parler de ce tableau sur Internet. Les procédures sont longues, et pour ce faire, afin d'obtenir un résultat sûr, et selon les mœurs de l'époque, il a même été soumis à la torture, méthode courante à cette époque en Europe. Certes, le mobile principal reste le vol, aussi bien à La Hède, ville natale de Kint, qu'à Amsterdam, où il est arrêté avec son complice du moment, le dénommé Hendrik Jansz, pour vol de manteau et de tabac. Mais lors de la dernière agression, afin de voler le manteau d'un passant, en voulant l'empêcher de crier, il engendra sur ce malheureux une attaque suffocante qui le fit succomber. Harry Skint est alors arrêté comme meurtrier et on apprend qu'il est vraiment âgé de 28 ans et non de 41 ans, comme l'ont indiqué bien des références sur la genèse de ce tableau. De plus, son comparse, Hendrik Jansz, fit une déclaration fort défavorable sur les divers cambriolages réalisés auparavant par Kint avec d'autres complices. Reste que l'avant-bras droit du condamné soulève quelques problèmes. Écoutez bien, car on sait vraiment que la main du condamné, alors je vous mets le tableau que vous avez là, que la main du condamné fut sciée quelques semaines avant son exécution, sur ordre du bailli de la ville de Leyde, pour diverses agressions. Cela ne fait pas de doute et se confirme par la seule radiographie dont on dispose de ce tableau qui a été restauré 21 fois. Alors là, vous avez, n'est-ce pas, une main droite qui est figurée. Vous la voyez? Alors qu'en fait, elle était sciée. Bon, alors ça pose des questions. Mais la première réflexion que j'ai faite en venant, mais dans le fond, pourquoi alors que les anatomistes vont toujours prendre le côté le droit en premier, c'est amené à disséquer un côté gauche. Mais pourquoi? Parce que de l'autre côté, il n'y avait rien. Donc ça devient de plus en plus évident. Alors, on va continuer l'étude. Quel problème? Alors là, je vous montre la radiographie. Vous avez le moignon. On voit le moignon, vous voyez, de la main. Ce n'est pas une main, c'est un moignon. Voilà. Puis c'est encore assez frais, là. On voit bien que tout n'est pas complètement cicatrisé. On sait les qualités exceptionnelles de dessinateur du maître hollandais, qui cependant n'a jamais été, comme la plupart de ses contemporains, faire un séjour instructif en Italie, ce que ne manquaient pas d'effectuer les autres maîtres de son époque. Mais il avait la même rigueur de toujours faire selon la nature même. Et ce n'est pas la qualité expressive des divers visages parmi les sept personnages qui assistent à cette leçon qui va nous le démentir. Il est vrai que quand vous regardez la qualité picturale de représentation des visages de ces gens, c'est tout à fait extraordinaire. Cependant, le condamné exécuté nous pose quelques problèmes à résoudre en sachant combien Rembrandt cerne vraiment ce que la nature lui donne à voir. Il est vrai que le condamné Harry Skint est de très petite taille si l'on compare son thorax à celui du docteur Tulpe, par exemple. Mais sa tête est de proportion habituelle, présentant en revanche un front proéminent, et si l'on examine la longueur des membres inférieurs en se référant à l'ouvrage d'anatomie si proche, voyez, hein, on peut dire qu'il est vraiment très petit, et son surnom de Kint s'explique bien, et même celui de T-Kint, car le T peut signifier aussi fraction et petite portion, ce qui en fonction de sa taille se comprend encore. Si l'on pousse notre examen, on note que les membres inférieurs ne sont pas au même niveau et que le droit est plus court que le gauche. Vu la façon dont on a la perspective dans ce tableau, on devrait avoir ce pied qui soit plus en avant. Bernard, tu es d'accord? Mais là, je me sers d'un éminent peintre. Alors et c'est un ami, alors j'y tiens beaucoup. Et ça ne m'est pas venu, mais je m'étais toujours posé des tas de questions. Alors, ne sont pas unis, et que le droit est plus court que le gauche, et cela nous fait reconsidérer le membre supérieur droit ajouté par Rembrandt, en sachant qu'Ariskinte avait subi à la hête quelques jours auparavant une amputation à la scie de la partie basse de l'avant-bras droit. Rembrandt était tout à fait instruit de ce fait, et la seule radiographie connue du tableau montre bien ce moignon, hein, alors que rien d'autre n'a été changé par la suite, sinon la reconstruction d'une main sur l'avant-bras droit, plus court, ce qui se voit amplement par comparaison. Alors, vous pourrez faire ce soir dans votre lit, allongé, vous dire, mais jusqu'où ma main vient-elle? Eh bien, ça viendra un peu au-dessus des genoux. Or, là, si vous faites attention, vous allez voir que ça s'arrête un peu au-dessus du bassin. Alors que de l'autre côté, elle est en position pratiquement habituelle. Bon, alors, vous allez voir que c'est pas si simple que ça après. Voilà. Alors, j'en étais là, donc. Alors, la réunion de l'avant-bras plus courte, voilà. Avec le membre disséqué qui, lui, est d'une longueur proportionnelle habituelle finissant au-dessus du genou gauche. On est d'accord. Somme toute, la déficience de longueur des membres droits supérieurs et inférieurs se juge bien par rapport à ceux de gauche, sur cet homme de très petite taille pour son âge, 28 ans, en se référant à la hauteur de l'ouvrage broché d'un Vésale ou une édition ultérieure, on peut donner ou envisager, si vous voulez, 42 à 43 cm pour la hauteur du volume, ce qui nous fait pour la peinture un excellent moyen de comparaison. Et on peut affirmer que notre condamné Ariskinte, qui veut dire le gnome, quoi, le petit, a réellement une petite taille d'environ 145 à 155 cm maximum. Et bien au moins aussi une oreille droite antéversée. Là, on voit l'oreille droite qui a été très bien représentée. Alors, si on avait pu voir la gauche, elle aurait été dans antéversée aussi. Intrigué surtout par l'observation de l'asymétrie entre l'hémicorps droit et gauche, nous avons recherché s'il existait un syndrome possible correspondant à l'observation. Et là, je tiens à remercier ma voisine rémoise, qui est une spécialiste des maladies congénitales, Madame le docteur Pigeon. En effet, devant notre faisceau de constatations que je lui ai soumis et nos recherches précises, cela lui a suggéré la possibilité de ce qu'on appelle un syndrome de Silver-Russell, qui a été décrit pour la première fois en 1953, qui est une maladie génétique dont le gène a été identifié. C'est la mutation sur le gène IGF grande taille sur petit 2. Donc la critique subie, c'est là que c'est important, la critique subie par Rembrandt sur ses erreurs de proportion apparut peu de temps après sa disparition, œuvre de personnalité comme le germanique Joachim von Sandrart en 1675, l'historien florentin Filippo Baldicinucci en 1680, ou comme André Félibien en 1685 et autre Roger de Pile en 1699, ne tient pas du tout. Ainsi s'exprime ce dernier qui lui reconnaît pourtant une manière unique. Si ses contours ne sont pas corrects, dit de Pile, les traits de son dessin sont pleins d'esprit. Et l'on voit dans les portraits qu'il a gravés que chaque trait de pointe, comme dans sa peinture, chaque coup de pinceau, donne aux parties du visage un caractère de vie et de vérité qui fait admirer celui de son génie. Il avait une suprême intelligence du clair-obscur, et etc., etc. Et je suis heureux de vous l'avoir démontré, cela par le fait indéniable qu'Ariskinte, le condamné, était un vrai nabot, porteur d'une rare malformation. Et surtout, qu'ayant eu la main droite tranchée, il ne pouvait pas être autrement pour le docteur Nicolas Stulp que de disséquer l'avant-bras gauche. Bien, voilà pour la première partie. Alors, là, je vous montre, justement pour bien voir, comme quoi, vous voyez, Le côté droit, le pied droit aurait dû descendre par la zone, parce qu'on est vraiment ici, nous on est dans ce coin-là, donc le pied devrait être devant nous par la perspective, ne serait-ce que la perspective. Alors ce qui a été précieux pour moi comme historien de la médecine, c'était de connaître la hauteur du volume. Ben, bien sûr. Alors, maintenant pour cette première partie, voilà. Vous avez une magnifique gravure d'un autoportrait de Rembrandt de la collection Dutuy, qui est à Paris, et qui ça m'amusait de finir ainsi. Alors on va maintenant passer à la deuxième partie. J'espère ne pas vous ennuyer de trop, mais je... Alors comme il y a deux leçons d'anatomie, on va faire la dernière, qui a eu aussi des sévices. Voilà. On l'a accusé vraiment de ne pas avoir le sens des... C'est ça qui est terrible. Voilà. Voilà, formidable. Alors, je fais pareil, hein. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Claude. Alors, la deuxième leçon, là, je vais être moins me consacrer à l'Italie, parce que je vous ai dit beaucoup de choses sur l'île. On va se consacrer pour cette peinture assez extraordinaire. Du docteur Devane. C'est un tableau qui a été réalisé en 1656. On ne voit pas. Attendez, tout de suite. Voilà. En 1656, donc 24 années après la leçon de physiologie du docteur Tupp. Et là, on peut vraiment dire que Rembrandt a peint une réelle leçon d'anatomie. Cette œuvre, qui est numéro 2018, est exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam. Et on observe une vraie leçon d'anatomie dont la dissection est effectuée là par le docteur Johann Dehmann, dont le père était un assistant dans la première leçon. Vous voyez la tradition aussi dans les familles hollandaises, comme dans tout, soit en France, les grands anatomistes, on était de père en fils là-dedans. Et cette peinture, qui était imposante, reste encore un témoignage, hélas réduit, de la maîtrise du maître hollandais, car cette toile a eu le malheur de brûler, en partie, dans l'incendie du 8 novembre 1723, qui a eu lieu dans la salle de la guilde des chirurgiens, donc probablement près de la Zint Antonies Waag. Donc pas très loin du Waag que je vous ai montré au début, ils avaient, si vous voulez, leur guilde avait leur local. Le fragment subsistant nous livre que la partie centrale avec l'opérateur prélector, son assistant et le cadavre. Alors, là vous voyez, on voit que c'est une leçon d'anatomie parce que le ventre est ouvert, donc il n'y a plus de risque de putréfaction, etc. L'assistant, qui est le Dehmann, tient, le Dehmann est en train d'opérer, et l'assistant tient la calotte crânienne. Ce qui permet d'observer, et vous allez le voir de plus près, le cerveau. C'est une étude du cerveau qui est faite ce jour-là. Alors, je vous montre maintenant ce fragment. C'est un dessin de Rembrandt. Parce qu'il avait fait ça pour les chirurgiens, pour dire, quand vous allez installer le tableau tel qu'il est, je vous propose, pour l'encadrement, tout ça, il faut le faire ainsi. Donc, ce tableau que vous avez là, cette esquisse de Rembrandt, nous a permis finalement de faire ressortir la partie qui reste. C'est celle qui est plus opaque. Vous allez voir, là vous avez toujours le disséqué, le docteur Dehmann, son assistant qui tient la calotte crânienne. Il faut observer aussi comment est un peu la salle de la guilde. Le fragment donc nous livre que la partie centrale, donc avec l'opérateur, prélector, et voilà. Néanmoins, on se fait une bonne idée du fragment du tableau, plus foncé dans la figure, par la présence d'une esquisse bistrée. Alors cette esquisse, vous l'avez là, faite à la plume, laissée par Rembrandt, qui livre le décor d'une salle d'anatomie, plutôt voûtée, et la présence de 9 personnages, dont 4 portent un chapeau. Ben oui! Et là, l'esquisse, elle est de Rembrandt. L'opérateur inclus, mais le rôle des personnages, en particulier celui à la droite de l'opérateur, n'est pas précis au point de faire dire qu'il soutient la tête du cadavre, comme l'écrit Alain Boucher. Mais les mains de Dehmann sont bien suggérées. Inspiration italienne pour Rembrandt, car la position du cadavre évoque le célèbre Christ peint de la Pinacothèque de Brera à Milan par Mantegna. Voilà. Donc vous avez là le bouleversant Christ d'Andrea Mantegna, mais ça doit être au point de vue de la qualité picturale, un exceptionnel. Mais je vous avoue qu'au point de vue perspective, on est loin. La tête est énorme, les pieds sont petits. Faut quand même. Là, c'est peut-être mon regard qui est fait de l'anatomie, mais ça n'est pas. Mais c'est quand même bouleversant. Faut quand même le reconnaître qu'il y a une ambiance extraordinaire. Alors, il y a aussi, Rembrandt peut s'être peut-être aussi inspiré d'Orazio Borgiani, 1574. 1616, dont je vous montre ici à la fois une peinture, donc peinture qui est pour vous du côté gauche, et la gravure du côté droit qui est plus difficile à présenter parce qu'elle n'était pas très très grosse. Alors, on note bien que dans cette œuvre, il y a aussi un naturalisme au Caravage. De tel Christ, et donc vous avez là deux bons exemples. Alors, il reste maintenant, je vais vous le montrer dans la suivante. Dans l'esquisse, on retrouve l'arcade de la salle d'anatomie de la guilde située dans un lieu qui est proche de la Sint-Antoniesvaag, c'est-à-dire près d'une église qui s'appelle Saint-Antoine d'Amsterdam, à confronter au tableau de 1600 qui présente aussi une arcade. Dans les deux cas, on a l'arcade de représenter. Dans le premier tableau, on la voit là, et elle est évoquée aussi ici. Donc ça doit être pratiquement la même salle, alors que dans la première, Rembrandt l'a fait figurer en l'ayant vue, mais le tableau a été fait dans son atelier, chose que l'on sait aussi. Notez maintenant donc que cette deuxième leçon figurait sur une très grande toile d'au moins 3 mètres sur 4, c'est énorme, et dont il ne reste que finalement 109 sur 132 cm, donc c'est pas beaucoup. Jan Dejman est le successeur du docteur Tulpe, et son assistant pour cette dissection se tenant à sa droite, tenant une calotte crânienne, c'est Gijsbrecht Matthijszoon Kalkoen, dont le père figurait aussi dans la première leçon de 1632. C'est bien une leçon d'anatomie qui a eu lieu le 28 janvier 1656, car l'abdomen a été ouvert. Voilà. Bon. Donc, on a la preuve que l'abdomen est ouvert, et vous avez. On connaît le nom du condamné, qui est un voleur du nom de Joris Fontet, surnommé Svartejan, qui a été pendu la veille. Tout comme dans la première leçon, c'est l'aspect rougeoyant des deux hémisphères cérébraux qui attire notre regard. La main gauche du prélector maintient un ciseau ou une pince ensanglantée sur la faux du cerveau qui est la dure mère et qui nous fait dire que l'instrument est un est un de ces deux instruments. Peut-être soit le ciseau ou une pince, dans la mesure où il y a une vis noire que l'on observe dans la peinture, qui est le pivot de l'instrument. Alors j'ai regardé dans ce qui pouvait être de l'époque, Zollingen, qui a représenté les instruments hollandais, vient un peu trop après, mais on a le skultet qui nous montre des pinces, comme en tenait d'ailleurs dans la première leçon d'anatomie l'anatomiste. La main gauche du prélector maintient un ciseau, donc une pince, sur la faux du cerveau, qui est donc bien la dure mère, et ce qui nous fait dire que l'instrument est un des deux que je vous ai proposé, soit une pince ou un ciseau. On a même l'impression que le maître, que l'on ne peut voir, s'adresse à l'assemblée, expliquant un point très important sur lequel son assistant, qui est Matisse Kalkoen, semble réfléchir tout en portant la calotte crânienne. Alors ça, c'est dans le tableau, donc en général, on le voit, hein. Et vous notez la main droite, ça c'est très important, je vais essayer de vous le retrouver. Voilà, on le voit là, après, Là, vous voyez, donc, on voit la pince avec le petit bouton, mais elle est à l'envers. Et là, je vous montre, c'est très important ce que je vous montre là, que la main droite de l'assistant qui semble réclamer manifestant un autre instrument. Il a une façon de mettre la main qui a l'air de dire « passez-moi telle pince ou tel objet ». La maîtrise du maître hollandais pour nous offrir un tel résultat par le seul visage et cette main est stupéfiante, imitant si génialement la nature vivante comme le soulignait bien André Féliben en 1685. Parce que cette main, on voit ça dans toutes les salles de chirurgie de nos jours, cette façon de tendre la main pour qu'elle donne. Alors bien sûr, elles sont gantées. Alors ensuite, la façon dont il a peint les couches réclinées depuis le cuir chevelu à la dure mère est saisissante, laissant ainsi apparaître la faux médiane du cerveau. C'est-à-dire, ce qu'il a sur l'instrument, c'est la partie qui rentre entre les deux hémisphères, ce qui est logique. Vraiment, on ne peut que regretter la perte des regards des 16 autres membres de la guilde. Sachez que c'est le célèbre anatomiste Frédéric Wisch, découvreur des valves des vaisseaux lymphatiques et autres systèmes d'injection anatomique des vaisseaux, qui sera le prochain prélecteur de l'Athénéum Illus d'Amsterdam en 1665. Celui-ci a été peint ici dans une leçon d'anatomie par Adrien Baker, 1608-1690, qui a eu comme ami intime Govaert Flinck, qui fut élève de Rembrandt, ou tout du moins fort influencé par lui. Voilà, la boucle est bouclée et j'en reste là, espérant vous avoir montré aussi que même l'indépendant Rembrandt n'a pas pu échapper à l'influence de l'art italien de la Renaissance. Merci beaucoup de votre écoute et on termine en fermant cette porte avec cette œuvre de mon cher ami. Oh zut alors! Ah! Avec cette œuvre de mon ami Bernard Fouché. Merci de votre écoute.
Merci Alain de cette démonstration, c'est assez impressionnant. Il y a eu beaucoup de mots techniques que nous ne retiendrons pas. J'espère qu'il n'y aura pas d'interro après. Mais c'était oui, fort intéressant, fort approfondi, et puis ça nous... Tu as réussi quand même à faire le lien avec l'Italie. En partant de Rembrandt, c'est assez fort dans cette association. Moi, j'ai deux questions. Léonard, tu n'en as pas parlé, pourtant c'était un rude. Tu nous as parlé un peu de Vézal.
Oui.
Prends ton micro.
Oui. Bon, Léonard. Bon, j'ai évoqué Dürer dont il avait. Il possédait le traité des proportions. Mais il faut se reporter au fait que Léonard, à l'époque où on avait ses peintures, sinon tu savais rien sur lui. Seul le petit Jean-François Ier venait le cajoler là-haut à Renvoi, puis c'est tout. On ne peut pas dire qu'il a... Bon, hein, il faut être honnête sur ce plan-là. Bon, maintenant, on s'émerveille, bien sûr. Mais voilà. Tandis que je dois dire, et j'étais content que tu m'aies remis toi-même la représentation du fameux vague, parce que là, on voit une marchande qui vend une petite peinture, et je n'avais pas fait attention à ça. Mais grâce à toi, j'étais content de le voir, parce que les peintures circulaient beaucoup, il y avait des marchands. Alors, celui que j'ai cité, qui était proche de Rembrandt, vous prouve comment certains Rembrandts sont arrivés chez nous, comment il y en a eu chez les Britanniques, etc., comment il y en a eu chez les Autrichiens et tout, sans compter les guerres, bien sûr, et le pillage.
Il y avait des copies aussi.
Ah, ben, il y avait énormément de copies. Alors, dans le cas, justement, de la collection Dutuy, longtemps, on a cru que c'était une copie, mais ça s'avère vraiment... Ils ont fait une étude extrêmement poussée, chimique, de la peinture, comme ils le font maintenant, qui permet de dire c'est vraiment les pigments de l'époque, etc. Oh, j'ai souvenir que, quand même, quand un faussaire est très fort, Mathieu, je crois, avait deux tableaux qui étaient au Louvre, qu'il avait fait avec des peintures d'époque et tout. Et s'il ne l'avait pas dit, il n'aurait pas été décroché, il y serait encore. Ah ouais, c'est connu dans l'histoire de Mathieu. Ça m'avait toujours frappé. Parce que pour être faussaire, il faut être génial. En fait.
J'ai une deuxième petite question. Ouais, alors. C'est, quand je regardais un peu ce qui se passait en Italie à cette époque, on disait que c'était les barbiers, en fait, qui faisaient le travail sous l'autorité de l'anatomiste qui était tout près. Mais c'était pas là on ne voit personne. Là, c'est un peu une cérémonie, évidemment.
C'est pas dans les étudiants. Alors, tu as raison, j'ai insisté sur le fait que c'était un tableau de groupe, donc il ne va pas présenter l'aide en anatomie. Alors que dans Vésal, si vous regardez la première page du livre d'anatomie, vous voyez d'ailleurs un chien qui se balade en train de bouffer de la boyauterie qui est tombée dans le seau, mais en plus on voit des aides. Il y a des aides, c'est vrai qu'il y avait, mais ça a été surtout par la période médiévale où les chirurgiens étaient vraiment deux clans. Les chirurgiens, les grands chirurgiens, qui n'étaient pas très nombreux, qui avaient un collège dans les villes où on pouvait vraiment en avoir un, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, après, c'était des chirurgiens de campagne ou des barbiers. Mais par exemple, sur Reims, on possède la liste des chirurgiens de campagne. Et récemment, un de mes collègues me demandait, pour son village dans lequel il était médecin, ben, j'en ai trouvé quand même, à différentes dates, au moins 22 ou 23 qui sont succédés. Donc, il y avait des listes de gens qui étaient formés, qui allaient faire de l'anatomie avec les médecins, qui allait aussi apprendre en direct à l'Hôtel Dieu. La formation des chirurgiens au lit du malade était bien avant celle des médecins. Ils étaient beaucoup plus experts à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, que les médecins qui, certes, parlaient fort bien le latin, mais avaient un verbiage dont certains de nos écrivains sont moqués. Mais il y a aussi quelques grands médecins qui étaient aussi à la fois chirurgiens, à la fois médecins, anatomistes et tout, qui étaient les seigneurs complets, mais là, c'est autre chose.
Bien, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Il y a aussi l'histoire de la fistule de Louis XIV, là, qui avait donné lieu à l'invention de...
Alors là, je vais être intarissable. Soit, si vous voulez, je reviendrai vous le faire, et je vous ferai rire, mais alors d'une façon extraordinaire. Si c'est vraiment ça vous passionne, je vous promets que je viens vous faire la fistule de Sa Majesté. Attendez, je vous donnerai qu'un seul détail pour vous allécher de ma venue. Vous savez qu'on a le journal de santé de Louis XIV, que Pérez a édité presque complètement. Et puis on a les ministres de Louis XIV. Alors, avant l'opération de la fistule, qui a été faite dans le salon de l'œil de bœuf, alors madame de maintenant tenait la main, enfin, il y a tout un cirque, mais ça je vous le raconterai après. Ce qui est important et qui m'a beaucoup bouleversé, c'est que avant, quand le roi s'ouvrait de sa fistule, ça veut dire qu'il avait atrocement mal parce qu'il faisait un abcès. Parce que les fistules, le propre des fistules, c'est de s'abcéder. Or un abcès para-anal ou para-rectal, c'est atrocement douloureux jusqu'au moment où il se vide. Alors là, c'est le soulagement et le bonheur. Et on voit bien la tête de nos patients quand on vide un abcès au cabinet. « Ah, docteur, ça va mieux. » Bon, c'est évident, ça fait atrocement mal. Il y en avait un qui avait observé que Sa Majesté avait des crises comme ça. C'était Louvois. Je dis ça parce que Louvois, c'était un proche de mon archevêque de Reims, puisque c'était son frère. Alors, Louvois voyait ça. Et puis, il n'aimait pas trop les protestants. Alors, il disait, « Ah, majesté !» Alors, vous voyez l'autre sur son siège qui n'était pas trop bien. Vous savez, du côté de Nîmes, là-bas, ça barre tout ça. Alors, l'autre, dans la rage d'avoir mal, il disait, « Allez-y !» Et il y avait des dragonnades qui correspondaient scrupuleusement, l'ordre des dragonnades, à des pics d'abcès de la fistule du roi. Non, mais c'est l'attitude d'un homme dans ses jugements peut être totalement changé. Et de mon expérience médicale, vous avez le droit, je ne tairai le nom, j'ai un jour soigné en urgence un malheureux juge du tribunal qui est venu me voir. Ben, je lui ai dit, venez, bon, parce que comme je travaille avec eux pour les problèmes d'alcool, et ils me connaissaient, alors ils m'avaient demandé, je viens, et il avait quelque chose de fort douloureux qui est non pas une un abcès, mais c'était une crise hémorroïdaire épouvantable avec un caillot complètement coincé. On répare ça aussitôt, il repart tout guéri, tout content, et puis, dans le début de l'après-midi, je me dis, zut, j'y ai pas pensé. Alors, je lui retéléphone au tribunal, il était là, on me dit, mais docteur, tout va bien, c'est gentil de prendre de mes nouvelles. Non, non, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ben, il dit, j'ai été au tribunal, je veux vous dire que j'étais pas bien. Hein. Je peux vous dire que je passais d'une fesse à l'autre et ça me soulageait pas pour autant. J'ai dit, vous avez pris des décisions? Ben, il me dit, bien sûr. Ah, il dit, je vous vois venir. Et il m'a dit, je vous promets, docteur, je vais toutes les revoir.
Ah, de l'influence du psychisme.
Oui, ça m'a marqué parce que je me suis dit, si je lui dis pas, bon. Ah ben oui, voilà. En médecine, on vit des drôles de choses.
Bien. Pour Alain, pour la future conférence donc sur Louis XIV et sa fistule, ça a accepté une seule condition, c'est que le chirurgien ait été italien.
Eh bien, je dois dire, il y aura un peu d'Italie dans l'affaire.
Alors nous verrons.
Et ça sera... Si vous saviez tout ce que cette fistule est entrée de et je jure qu'il y aura un peu d'Italie dans la fête.
Bien.
J'ai déjà fait cette conférence une fois, les amis, mais ils étaient tellement pliés en deux à la fin, mais c'était entre nous, entre médecins. Mais là, ça ne sera pas du tout monstrueux, je vous dis, mais ça sera, c'est vrai. Mais c'était redoutable quand même.
Bien.
Non, mais je vous promets, je reviendrai, ça sera peut-être, ça ne sera pas l'été prochain, ça sera donc en 2019.
Voilà.
Donc je viendrai grand plaisir à Orléans, je reprendrai la route à l'envers, le Mans, la route toute droite, et puis j'arriverai à Orléans, c'est très bien.
Voilà, bon, il n'y a plus de questions. Plus de questions? Non.